En priant pour ces moments, je demandais au Seigneur, voilà, le souhait de mon cœur, comme pour nous tous, c'est que vraiment le Seigneur soit au centre de tous ces moments, que ce soit le temps des chants, la louange, le temps de la prédication, Christ au centre. Et je repensais particulièrement à ce que nous avons partagé dimanche dernier, mais aussi il y a 15 jours, notre frère Denis Bourdeneuve, qui nous rappelait que en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement une vie centrée sur le Seigneur Jésus. Jésus au centre de toutes nos rencontres, de tous les événements de notre vie, et ça nous suffit. Alléluia. En introduction de ce que nous allons partager ce matin, je voudrais revenir sur un événement majeur de l'histoire du peuple d'Israël, dont un livre de la Bible porte le nom, c'est le livre de l'Exode. Exode signifie sortie, départ. Et la première partie de ce livre de l'Exode, voilà, je ne vous ai pas donné de verset, mais plusieurs cherchent déjà, c'est bien. La première partie de ce livre nous révèle comment Dieu a délivré le peuple d'Israël de son état d'esclavage. Et il faut voir, on n'aura pas le temps de lire tous les versets ce matin, mais je vous encourage à les relire chez vous si vous le souhaitez. Il est impressionnant de voir comment ces années d'esclavage ont été des années de véritable souffrance. Et il faut lire ces versets pour se rendre compte de la douleur véritablement que le peuple a traversée. Et c'est une douleur, nous dit la parole, qui est montée jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et ça sera le premier texte qu'on va lire ensemble, donc dans le livre de Exode. C'est bien. Chapitre 3. Alors je prends que quelques versets, il faudrait bien sûr repartir du premier chapitre. Prenez des notes, si vous n'êtes pas habitué à ces textes, relisez-les tranquillement chez vous. Exode 3, verset 7 au verset 10. Texte qui permettra peut-être à certains qui sont dans la souffrance et dans la douleur de réaliser que le Seigneur est loin d'être insensible, même il entend toutes choses. Même si parfois nous avons l'impression qu'il est si loin. Exode 3, verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » Vous voyez, rien que déjà dans ce verset, douleur, oppression, souffrance, les cris. Verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. » L'Éternel s'adresse à Moïse, mais il est impressionnant, juste je m'y arrête encore un tout petit peu, de voir le niveau de souffrance, d'oppression dans lequel le peuple d'Israël était. Si vous regardez, alors juste au chapitre 1, regardez un petit peu en arrière, juste pour revoir quelques-uns de ces mots, verset 11, chapitre 1er, verset 11, « On établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénible. Si vous regardez au verset 12, il est dit « Plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. » Verset 13, « Ils réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. » Verset 14, « Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux. » Et il y a aussi, un peu plus loin, à partir du verset 16, eh bien, cette situation où il est dit ceci, « Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, faites-le vivre. » Et au verset 22, il est même écrit ceci, « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. » Juste, nous avons revu ces quelques versets très, 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 très rapidement, juste pour se rappeler, se remémorer l'intensité du désarroi qui pouvait exister dans le cœur des enfants d'Israël à ce moment. C'est vrai que nous lisons les textes, mais il faut imaginer ce contexte dans lequel les enfants d'Israël étaient dure servitude, vie amère, cruauté, esclavage très rude. Dieu va susciter un homme, Moïse, pour délivrer son peuple. Et je dirais que malgré tous les signes évidents de la puissance de Dieu, vous savez, toute cette histoire des 10 plaies, nous avons le témoignage de Pharaon dont le cœur va s'endurcir. Et je crois que nous le disions la semaine dernière, en tout cas très récemment, nous le partagions. C'est vrai qu'un cœur qui reste fermé, plus il reste fermé, plus il s'endurcit. Et même devant l'évidence, parce que quand vous voyez les différentes plaies qui s'accomplissent, à un moment donné, même les enchanteurs autour du Pharaon sont obligés de dire « Mais là, c'est le doigt de Dieu. » Et même lorsque le cœur est endurci, eh bien, si la puissance de Dieu est manifeste et évidente, eh bien, le cœur ne croit pas et reste incrédule. Et ce que nous partagerons ce matin, c'est qu'avant de faire venir la dernière plaie, cette dernière plaie, vous savez, qui permettra au peuple d'Israël enfin de quitter l'esclavage, eh bien, l'Éternel va dire quelque chose qui va nous retenir notre attention ce matin dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, et nous lirons à partir du verset 3. Vous savez qu'avant de faire venir cette dernière plaie, l'Éternel a voulu cette institution de la Pâque, et voici ce que déclare l'Éternel dans Exode chapitre 13 et verset 3. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour. Et c'est le titre de notre message ce matin. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, et on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Verset 8, tu diras alors à ton fils: c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Amen. Ce sera un souvenir. Souvenez-vous de ce jour. Ce sera en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Déjà une notion individuelle, personnelle. Quand l'Éternel s'adresse au peuple d'Israël dans ce temps précis de l'histoire, l'Éternel est tout à fait conscient que dans quelques heures, ce peuple qui était soumis à une rude servitude, qui était dans l'oppression de cet esclavage, l'Éternel le sait très bien. Dans quelques heures, eux qui pleuraient, qui gémissaient, se lamentaient, seront dans la joie, dans la délivrance, sautant, louant, bénissant, chantant des cantiques à l'Éternel. L'Éternel sait très bien ces choses-là. Dieu sait qu'enfin, la douleur, l'angoisse, la tristesse va laisser enfin beaucoup de place à la joie et à beaucoup de place à la réjouissance. Dieu sait très bien que le peuple d'Israël, esclave du pays d'Égypte depuis de longues années, va connaître un jour que nous qualifierons ce matin d'inoubliable. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse infinie, avant que ce jour inoubliable se déroule dans leur vie, Dieu va encourager son peuple à ne pas oublier l'inoubliable. C'est pour cela qu'il demandera à Israël de célébrer la Pâque en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour le peuple d'Israël et pour chacun individuellement. Vous savez que la délivrance du peuple d'Israël est aussi une préfiguration extraordinaire de notre propre délivrance. Paul dit: Christ, notre Pâque, l'agneau qui a été immolé, Jésus qui a été crucifié pendant d'ailleurs ce temps de la célébration de la Pâque. Nous aussi, nous étions esclaves dans le péché. Tristesse, remords, servitude, douleur, souffrance. Que d'amertume dans nos vies. Vous souvenez-vous de ce jour, de ces jours, de ce temps où votre vie a été transformée, changée, où la douleur a été changée en cri de joie. Vous souvenez-vous de ce jour où vous êtes arrivé devant la croix avec un fardeau que personne ne pouvait vous enlever, un fardeau où vous ne pouviez rien faire pour vous l'ôter vous-même, aucune religion, aucune croyance particulière, aucune bonne intention humaine ne pouvait vous l'enlever. Vous souvenez-vous, mes frères et sœurs, de l'oppression dans laquelle vous étiez et de ce moment où vous avez ouvert votre cœur à la grâce et où le bonheur parfait en Jésus-Christ est venu dans votre vie. Où à partir de ce moment, toute la plénitude de Dieu manifestée en Jésus-Christ vous a été disponible. Peut-on avoir oublié? Peut-on avoir oublié cet instant où Dieu nous a révélé, où il nous a secourus, où il nous a fait sentir cette paix céleste nous envahir? Qui au milieu de nous se rappelle de ce moment où cette paix a envahi le cœur? Quelque chose qu'on ne pouvait pas décrire. Ça s'est peut-être passé en quelques secondes, quelques minutes. Qui a pu oublier? Nous sommes véritablement passés de la mort à la vie, exactement comme le peuple d'Israël, esclave en Égypte. En tout cas, tout comme le peuple d'Israël a été encouragé à perpétuer le souvenir, nous aussi, nous sommes encouragés par le Seigneur. Et pas uniquement, bien sûr, autour du repas du Seigneur, mais tous les instants de notre vie. À ne jamais oublier, que jamais je n'oublie, ô Dieu, ton grand amour si merveilleux. Vous voulez le lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11, pour voir si vous êtes d'accord. 1 Corinthiens chapitre 11, ce sont les paroles de l'apôtre Paul, alors qu'ils sont rappelés régulièrement, bien sûr, au moment du partage de la Sainte-Cène, et c'est très bien de le faire, c'est des versets que l'on connaît pratiquement par cœur. Et comme le disait tout à l'heure notre frère dans sa prière, que ce soit comme peut-être la première fois qu'on l'entend, en tout cas, vous savez, je crois que c'est Jonathan aussi qui le disait dans le début de ce culte, effectivement, on a cette habitude, très très bonne habitude, excellente habitude de se retrouver. Mais c'est vrai que le terme habitude peut, c'est vrai, engendrer quelque part une certaine routine, et nous devons être sensibles à cela, tout simplement. Relisons ces passages de l'institution de la Sainte-Cène, 1 Corinthiens chapitre 11, et je vous ai dit quel verset? 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Je fais une petite parenthèse, il ne dit pas en mémoire de tout ce que j'ai fait, mais en mémoire de moi. Et cette pensée, au début de ce que je vous disais, c'est que c'est toute l'œuvre de Christ qui doit être le centre de notre, qui doit capter notre attention. En mémoire de moi, de toute mon œuvre. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour, dans la transcription, parole vivante. Mais alors, me direz-vous, pourquoi Dieu nous encourage-t-il à ne pas oublier ce que je qualifie ce matin intentionnellement d'inoubliable? Pourquoi? De même que, avant la délivrance, le Seigneur a pris soin de vraiment préparer le cœur du peuple d'Israël a institué toute cette Pâque. Vous regardez dans tous ces textes la précision, chaque moment avait son importance et préfigurait effectivement ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous encourage-t-il à ne pas oublier ? Ouais, tout simplement parce qu'on a la mémoire un peu courte. On peut vivre le Alzheimer spirituel. Et cette mémoire, elle a besoin de temps en temps d'être rafraîchie, continuellement. Nous sommes souvent, comme ces gens dont la parole de Dieu parle ainsi, ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir dans le psaume 78, verset 11. Pourquoi il est important de jamais oublier, de toujours se souvenir? Vous savez, le souvenir constant de la délivrance de nos vies n'a pas pour but juste d'être nostalgique, vous savez, sur la mort de Christ, vous savez, un côté parfois un petit peu où on est compatissant, c'est pas de la nostalgie. Le rappel de ces choses doit avoir une action concrète dans nos vies aujourd'hui. Si le Seigneur nous encourage à nous souvenir de ce jour et de ces temps particuliers, c'est pour que aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, eh bien, ce souvenir est une efficacité dans nos vies aujourd'hui. Bien des dangers nous seraient évités si nous savions constamment nous souvenir de ce jour. Je vous en supplie de la part du Seigneur. Souvenez-vous de ce jour. Je vais voir avec vous quatre dangers très rapidement qui peut guetter le croyant de ne pas rester dans cette position. Le premier danger, et la première raison justement de nous souvenir de ce jour, eh bien c'est pour être gardé de l'ingratitude. Éphésiens chapitre 3, verset 20, on le lit, 5, verset 20, on le lit ensemble s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 20, qu'est-ce qu'il est écrit dans votre Bible ? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un peu plus loin, Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Encore un verset pour vous convaincre. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ben, ce n'est pas moi à vous convaincre, c'est la parole qui vous convainc. Hein. On est bien d'accord. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. J'ai été gentil, je vous les ai laissés dans l'ordre de la lecture. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, qu'est-ce qu'il est écrit ? La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous de ce jour, peut nous préserver et nous garder de l'ingratitude. Tout ce que nous avons, nous est donné par l'Éternel. La vie, le mouvement, la respiration, la santé. Vous savez, la santé, tant qu'on l'a, on ne réalise pas toujours vraiment. Mais dès que ça titille un peu, voilà, il y a certains organes, on ne les connaissait pas ni rien. Et puis dès qu'ils sont un peu touchés, on se renseigne, clac, ah. Tout ce que nous avons, tout ce qui est nécessaire à notre subsistance, nous vient de l'Éternel. Et pourtant, les hommes qui jouissent de tous ces dons sont totalement ingrats vis-à-vis de Dieu. Et que Dieu nous garde d'oublier ses nombreux bienfaits à notre égard. À l'image du peuple d'Israël dans le désert, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, lorsqu'ils vont cheminer, nous aussi, nous avons été délivrés par le sang de l'agneau. Et vous savez, l'abondance de la grâce de Dieu qu'il nous donne jour après jour, eh bien, nous avons un grand risque et un grand danger, c'est de s'habituer et de s'accoutumer à la grâce de Dieu. Au point peut-être parfois de devenir ingrat. Le peuple d'Israël, vous vous rappelez, qui avait été dans la soif et même dans la faim, dans le désert, avait reçu d'une manière prodigieuse et miraculeuse ce pain qui venait du ciel, la manne, et pourtant plus tard, ce même peuple dira « Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture dans Nombre chapitre 21 et verset 5. Que l'abondance de cette grâce, parce qu'elle est immense, l'abondance de la grâce de Dieu sur chacune de nos vies, même avant de lui donner notre cœur. Les hommes et les femmes qui autour de nous lèvent le poing contre Dieu ne réalisent pas véritablement que s'ils peuvent le faire, c'est parce que Dieu leur donne le souffle de vie. Que l'abondance de la grâce que Dieu nous donne chaque jour ne nous plonge pas dans l'ingratitude, mais que Dieu nous rende sages, mes frères et sœurs, d'avoir constamment ce rappel dans notre cœur d'où nous étions, d'où il nous a tirés et ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais lire un autre texte avec vous sur ce premier point. Souvenez-vous de ce jour nous garde de l'ingratitude. C'est un temps particulier, vous savez, le peuple d'Israël va cheminer 40 ans dans le désert. Et puis, la promesse est là tout à nouveau. Le peuple d'Israël est prêt de rentrer enfin dans le pays de la promesse. Et voici ce que l'Éternel va déclarer dans Deutéronome chapitre 8, on le lit ensemble. Deutéronome chapitre 8, dans sa sagesse, Dieu va réitérer cet avertissement à l'égard du peuple d'Israël. Deutéronome 8 et le verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons lu tout à l'heure, rendez continuellement grâce à votre Dieu. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Qu'est-ce qui est écrit au verset 11? Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, c'est ça l'abondance de la grâce. Verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alors attendez, parce que je voulais juste lire le verset suivant. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, alors c'est ça. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, verset 18, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Souvenez-vous de ce jour. Et ce texte nous introduit aussi dans ce deuxième danger que nous a rappelé Nicolas tout à l'heure en présentant la Sainte-Cène, c'est l'orgueil. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Le souvenir constant de ce jour merveilleux, de l'œuvre de Jésus-Christ manifestée à la croix du calvaire, peut nous garder les uns et les autres de toute forme d'orgueil, de suffisance par nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Dieu ne veut pas que nous gardions le souvenir de notre passé pour nous culpabiliser, pour nous rappeler les fautes que nous avions commises. Rien à voir avec tout cela. D'ailleurs, il est écrit dans la parole, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péché dans Ésaïe 43, verset 25. Ce n'est pas pour nous rappeler ce que nous avons mal fait devant sa face, pas du tout. Mais il se peut que la routine aidant, au milieu de l'abondance de la grâce de Dieu, nous mettions en oubli que c'est Dieu, et uniquement Dieu, et lui seul qui est l'auteur de notre salut. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons entièrement à lui, à sa bonté, à sa grâce, à son amour. Et à moins de se souvenir de ce jour de grâce continuellement dans nos vies, nous pourrions parfois, c'est peut-être même insidieux dans nos cœurs, rajouter, vous savez, un petit peu de nos efforts. Vous vous rappelez l'histoire du pharisien, vous savez, avec ce publicain, où moi je jeûne, je donne la dîme, voilà, je ne suis pas comme les autres, etc. Ça peut être insidieux. Nous pourrions parfois rajouter certains de nos efforts et peut-être considérer, oui, notre contribution à cette œuvre de grâce et d'amour. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous souvenez-vous de ce jour afin d'être gardé de l'orgueil, parce que, comme dit la parole, c'est vraiment par la grâce et uniquement par la grâce que nous sommes sauvés. Vous êtes d'accord? On le lit quand même ensemble. Éphésiens chapitre 2, épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, aussi des versets très 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 connus que nous lisons et relisons, mais à cet endroit de notre méditation, je voudrais le relire avec vous. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Oui, souvenez-vous de ces jours, nous garde de toute forme d'orgueil. Éphésiens 2, verset 1er, vous étiez morts. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on est passé de la mort à la vie. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez, je fais une petite parenthèse, mais c'est pas pour nous culpabiliser à nouveau, on est bien d'accord là-dessus. Mais l'apôtre Paul n'hésite pas à rappeler la condition dans laquelle nous étions auparavant. Verset 4, mais, alléluia, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 11, c'est pourquoi. Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Souvenez-vous de ce jour. Quelle était votre condition? À cette époque, il y avait les Juifs et les autres, les païens, les incirconcis. Il y avait d'un côté les circoncis et les incirconcis. Et seuls les Juifs, il faut se rappeler quand même le contexte, seuls les Juifs pouvaient prétendre à une communion avec Dieu, pas les autres. Les autres étaient totalement méprisés, étrangers aux alliances de la promesse. Et Paul va encourager les chrétiens d'Éphèse à se souvenir de cela, afin de garder toujours en tête que c'est par pure grâce de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Alléluia. Souvenez-vous de ce jour. Nous garde de l'ingratitude et nous garde aussi de l'orgueil. Garde-toi dans ton cœur de te dire que c'est ma force et la puissance de ma main qui ont acquis ces richesses. Autre effet bénéfique de ce souvenir, pourquoi l'Éternel nous encourage-t-il autant à se souvenir et à ne jamais oublier? Eh bien, c'est pour être gardé du découragement aussi. Vous savez, la vallée du découragement, c'est une vallée que nous traversons tous. Voilà, elle est plus ou moins profonde, elle est dans des temps particuliers, qu'importe. Il y a un des dangers dans notre marche chrétienne, c'est cette vallée du découragement. Et nous avons vu malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous, de frères et sœurs qui étaient parfois engagés, eh bien, arrêtés et abandonnés, à à cause du découragement. Nous ne devons pas minimiser. Prions pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui fléchissent un petit peu, pour ceux qui sont faibles au milieu de nous. Le souvenir constant de ce jour où Dieu nous a libérés stimule constamment notre foi. Ce thème du souvenir dans nos cœurs doit nous remplir de force, de courage. La Bible dit ceci, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alléluia. Le souvenir constant de ce qu'il a fait doit stimuler ma foi. S'il a fait la plus grande des choses dans ma vie, il saura aussi accomplir tout le reste. Ayez les regards fixés sur Jésus. Souvenez-vous. L'apôtre Paul dira, souviens-toi de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Cela nous a été rappelé dans ce cantique tout à l'heure, crucifié. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Alléluia. Hébreux, chapitre 12, verset 3. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais terminer par ce dernier point, ce quatrième point. Souvenez-vous de ce jour, nous garde aussi de la passivité. Le souvenir constant de ce que Christ a fait, rappelons-nous qu'il l'a fait volontairement, c'est lui qui a donné sa vie, cet engagement, le souvenir constant du sacrifice de Jésus à la croix, doit nous engager toujours dans l'action avec le Seigneur. Si nous gardons toujours en mémoire ce qu'il a fait, si nous nous souvenons ensemble, comme cela a été rappelé tout à l'heure, qu'il a été dépouillé de toute sa gloire, il a accepté tout cela, il s'est humilié lui-même, si nous réalisons et si nous gardons dans notre cœur ce qu'il a fait pour nous, nous resterons pétris de cette pensée, « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que fais-tu pour moi ?» Comme nous l'avons dit, l'invitation à se souvenir n'est pas là pour garder les yeux fixés sur les choses anciennes, mais pour nous porter à l'action et à agir maintenant. Je me souviens, moi aussi, Seigneur, je veux donner ma vie. La parole de Dieu ne dit-elle pas ? Et c'est ça le souvenir de ce jour. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. Vous savez, on connaît bien Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît moins le 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour, souvenir de ce jour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean, chapitre 3. Verset 16. La Bible nous révèle que nous avions une dette envers Dieu, une dette que personne ne pouvait régler. Aussi Dieu, dans son grand amour, nous a donné Jésus-Christ pour que cette dette soit épongée. Et si Dieu veut que nous nous souvenions constamment de ce jour merveilleux, c'est pour que nous puissions être chargés aussi, nous, de cet amour, être porteurs de cet amour, afin que nous puissions pardonner aux autres, comme nous avons été pardonnés. C'est Nicolas, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, qui nous avait dit cette version, « Remets-nous nos dettes, comme nous nous remettons nos dettes aux autres. » Et cela nous rappelle, vous savez, cette parabole que le Seigneur nous a laissée. Je voudrais lire juste un verset avec vous, Matthieu, chapitre 18. Quand je disais qu'on a la mémoire courte, il faut relire un petit peu cette parabole que le Seigneur Jésus a laissée. Allez, je prends un peu de temps, je veux la relire avec vous. Être gardé de la passivité, ce n'est pas forcément, vous savez, parfois quand on parle du service, c'est un thème aussi qui est sur mon cœur et que, que Dieu voulant, on partagera un certain jour. C'est pas voilà, servir pour servir, mais c'est un cœur entier, une vie consacrée pour Dieu. Tout ce que j'ai fait, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, quand je réalise cela, qu'est-ce que le don de ma vie ici-bas sur la terre pour lui, en rapport de ce que lui a fait pour moi. On relit cette parabole ensemble. C'est pourquoi le royaume des cieux, Matthieu 18, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alléluia. Après qu'il fut sorti, ce serviteur, entre parenthèses à la mémoire courte, c'est pas écrit, excusez-moi, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Pratiquement rien par rapport à la dette qu'il avait eue. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Mais paie sur tout ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre, se souvenant de la dette qui lui avait été acquittée, non ? Mais l'autre ne voulut pas. Vous croyez des fois, quand on lit ces textes, je suis sûr qu'on ne se retrouve pas. On se dit, bon, voilà, ça c'est... Enfin, soyons honnêtes quelque part. Voilà, moi je lis ça, je me dis, ouf, je suis loin de là. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas des proportions de la foi dans notre vie, dans notre cœur, qui doivent nous interpeller quand même ? L'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, verset 35, que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère, du bout de ses lèvres, de tout son cœur. Aimez comme vous avez été aimé, dit la parole de Dieu. Je conclue, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'ai été bouleversé à titre personnel de voir comment Dieu, qui connaît toutes choses, qui savait que le peuple d'Israël, ils allaient sauter de joie, qu'ils allaient passer du deuil, de la tristesse. Vous imaginez ces hommes et ces femmes qui sont fouettés, qui sont lassés, aucune perspective dans leur vie. L'Éternel sait ce qui va se passer. Et dans sa sagesse, c'est fini, il institue la Pâque pour que jamais ils oublient, pour que toujours le souvenir soit dans leur cœur. Et de même pour nous, avant d'aller à la croix, avant le sacrifice, le Seigneur prend soin d'instituer la Sainte Cène, ce moment très particulier où nous sommes encouragés à nous souvenir, à ne jamais oublier, comme dit ce cœur que nous chantons parfois, que jamais je n'oublie, ô Dieu, ton grand amour merveilleux. Et si j'oublie, ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Dans nos cultes, le souvenir de Jésus-Christ doit nous stimuler à l'adoration, à la louange à notre Père qui nous a donné son Fils unique par amour pour nous. Et c'est vrai que ce temps particulier du repas du Seigneur, mais pas que. J'hésitais à le faire avant que nous prenions la Sainte Cène. Mais ce n'est pas que ce moment-là. C'est un temps particulier où nous le faisons, je dirais, tous ensemble. Il y a une dimension de communion très particulière. Mais le souvenir, c'est quelque chose dans votre culte personnel, tous les jours de votre vie, tous les instants. Prendre part au repas du Seigneur en particulier, c'est nous rappeler ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait. Finalement, notre nouvelle raison de vivre, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Sauveur. L'apôtre Paul avait raison dans cette exhortation de dire à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce qu'il est pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour tous les hommes, mais aussi pour toi, en mémoire de ce qu'il a fait pour ma vie, ma propre vie. Prions le Seigneur un instant, s'il vous plaît. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour ta parole. Comme cela a été rappelé tout à l'heure par un frère qui bénissait ton nom pour la parole que tu nous as donnée. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta sagesse infinie. Tu connais nos cœurs, tu connais nos faiblesses. Merci d'avoir, dans ta sagesse, placé ces principes sur nos vies et sur nos cœurs, afin que nous soyons gardés les uns et les autres. Oui, gardés de ce découragement qui vient si facilement, c'est vrai, dans nos vies. Gardés peut-être parfois aussi de cet orgueil. Parfois gardés même de l'ingratitude. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Aide-nous ce matin. Nous avons tout reçu de toi et nous réalisons, oui, encore ce matin, que ce tout pleinement Jésus-Christ nous permet de puiser encore la force nécessaire, Seigneur, pour pouvoir constamment dans notre vie avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, que tu sois le centre de nos rassemblements, le centre de cette assemblée, Seigneur, que tu sois le centre de nos vies, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité qui est vivant et qui agit pleinement au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous voulons nous aussi te servir comme tu nous as servi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.